Got gun, Hulk left slot.
Dixie left, Key left.
Mercedes, wide chip, Ricky.
Fever left, 75, Katie, Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du podcast J'en Actu, l'épisode numéro 480 du podcast très précisément. La moitié très heureux de vous retrouver pour ce débrief exceptionnel du Divisional Weekend. À mes côtés, Raphaël Masmejean est là, il est debout, il est chaud. Bonjour Raphaël.
Salut Alain, salut à tous.
Raphaël qui succombe à la mode du standing desk, c'est ça?
C'est ça, totalement, ça y est.
Après cet instant LinkedIn, passons à l'instant gastronomie avec celui qui est en train de manger tranquillement son burger. C'est Grégory Richard. Bonjour Grégory.
Bonjour messieurs, bonjour à tous.
Je donne un peu de coulisses parce que ça a été un peu épique pour en arriver où on est, où on se parle. Hein. C'est-à-dire que Grégory a d'abord terrorisé les piétons parisiens à coups de voiture. On l'a attendu pendant un petit moment. Et ensuite, il est arrivé avec son burger donc, qu'il va manger délicatement en mettant son micro en mute pendant que les autres parlent. C'est le plan de l'émission. Bon, très heureux de vous retrouver tous les deux.
C'est la thématique puisqu'on s'est régalé ce week-end.
Exactement, très bien, très belle passerelle. Cette émission vous est proposée par notre partenaire JD Sport pour tout ce qui est sportswear, c'est-à-dire vêtements, sneakers, accessoires des plus grandes marques, mais aussi des maillots de la NFL. C'est chez JD Sport que ça se passe. Vous l'avez deviné, on va parler d'un match d'anthologie entre les Chiefs et les Bills, des Bengals en finale de conférence, mais aussi d'Aaron Rodgers et de Tom Brady en vacances. C'est du délire cette semaine, accrochez-vous, c'est parti.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
En vrai, je dois avouer, je maudis Greg parce qu'il me donne faim de ouf, en fait. C'est surtout ça le problème. C'est pas tant qu'il mange, c'est qu'il me donne faim. Chiefs 42, Bills 36 en prolongation. Incroyable, délirant, magnifique, fou. Je pense qu'on peut évacuer tous les superlatifs mérités tout de suite. C'était un des matchs les plus incroyables des playoffs de mémoire récente. Je vous redonne un peu le scénario pour situer à ceux qui n'ont pas vu. Les Bills marquent un touchdown pour mener 29-26 à 1 minute 54 de la fin. Les Chiefs répondent en 5 actions et mènent 33-29 à 1 minute 02 de la fin. Les Bills répondent en 6 actions et mènent 36-33 à 13 secondes de la fin. Patrick Mahomes remonte 44 yards en 2 passes et donc en même pas 13 secondes pour mettre son équipe en position de field goal de l'égalisation, prolongation. Prolongation, premier ballon pour les Chiefs qui vont au touchdown, Travis Kelce. Pour la gang, les Bills donc n'auront pas touché le ballon en prolongation et je pense qu'on en reparlera. C'est incroyable. Est-ce que le plus triste, c'est pas qu'il fallait un vainqueur dans ce match, Raphaël ?
Si, si, c'est presque le plus triste parce que les deux équipes ont offert, et notamment offensivement, une partition quasiment parfaite sur l'ensemble du match. Il y a peut-être eu un drive un peu raté par les Chiefs, un drive un peu raté par Buffalo, mais globalement, c'était quand même du très très haut niveau. Que ce soit dans les appels de jeu, dans les actions faites, enfin, Josh Allen et Patrick Mahomes étaient tous deux sur une autre planète ce dimanche. Donc oui, oui, c'est dommage. Après, c'est aussi ça le sport et c'est ce qu'on aime, c'est qu'à un moment il faut un gagnant et voilà. Et clairement, quand on voyait ce match hier, on avait, alors sans marcher sur nos previews de jeudi, etc., mais on avait un peu l'impression de voir le potentiel vainqueur du Super Bowl dans ce match, quoi. Tellement les deux, par rapport à ce qu'on a vu du reste du week-end, on donnait le sentiment d'être au-dessus du lot, et notamment, encore une fois, offensivement.
Oui, je pense que c'est pas mordre énormément sur les previews de jeudi que de dire qu'a priori, il y aura un peu Kansas City et les autres, j'ai l'impression, dans ce qui reste. Il y a énormément de choses à débriefer dans ce match. Mmh. Je vais commencer, alors on pourrait commencer par plein de choses. Je vais commencer par un truc, Grégory, je trouve que Patrick Mahomes a retrouvé sa mobilité par rapport aux playoffs de l'an dernier. Et c'est quand même plus le même homme. Ça a été un match incroyable de la part de Patrick Mahomes.
Bah, c'est ça, c'est aussi ce qui rend cette rencontre atypique et le fait que vraiment il y a eu cette passe d'armes jusqu'au bout, parce qu'il n'y a jamais vraiment autant sur certaines rencontres, par exemple peut-être le match de Tampa dont on a parlé tout à l'heure, ça n'a pas été aussi accroché sur l'ensemble du match que le score ne peut le laisser paraître. Là, on s'est vraiment rendu coup pour coup. Et je trouve que même si Buffalo et Kansas City ont frappé avec des armes différentes dans le domaine aérien, Mahomes et Allen ont joué de pair dans le côté efficacité à la passe, mais surtout mobilité et capacité à se rambler, à gagner du temps et aller chercher notamment des premières tentatives au sol. Et on a vu notamment, on s'est retrouvé dans des situations où Mahomes avait notamment des boulevards, mais parce que du coup, sa mobilité lui permettait de se mettre dans des situations où il y avait gros gains à l'arrivée et où il y avait capacité également de pouvoir alimenter le score. Donc je te rejoins, c'est vrai que on découvre pas cette année, c'est vrai que les chiffres le démontraient un petit peu, c'est-à-dire que malheureusement, on avait cette équipe de Kansas City qui était un peu inconstante en fonction des semaines, mais on voyait que l'attaque tournait correctement. Là, en effet, pour rejoindre ce que tu disais, c'est sûr que l'année dernière, le problème au pied de Mahomes pouvait un petit peu handicaper. Là, très clairement, a priori, ce ne sera pas un problème pour les Chiefs de ce qu'on en a vu pendant les playoffs 2021, en tout cas pour l'instant.
Je sais plus qui commentait sur la chaîne américaine, disait à un moment, j'ai l'impression de voir c'est le même mec qui joue pour les deux équipes au poste de quarterback. Ils sont tous les deux incroyables, ils sont tous les deux parfaits, ils sont tous les deux mobiles, ils ratent rien. Mahomes, 378 yards, 3 touchdowns à la passe, 69 yards, 1 touchdown au sol. Et c'est vrai que Josh Allen, 329 yards, 4 touchdowns à la passe et 68 yards au sol. Ils ont 1 yard près le même touchdown le même nombre de yards au sol. Raphaël, les deux ont été incroyables.
Ouais, les deux ont été incroyables. Dans des styles, malgré tout, je trouve un peu différents. Josh Allen, ses courses étaient très physiques, très en bourrin, quand Mahomes était vraiment dans l'esquive, dans l'évitement des défenseurs adverses. Et pareil, même dans le jeu de passe, on a vu Josh Allen lancer des bombes aériennes, notamment, on pense à ses touchdowns et un des touchdowns pour Gabriel Davis, alors que tout le jeu de Mahomes, il n'y a aucune passe dans les airs de plus de 20 yards. C'est beaucoup de petites passes, des gains après contact, des gains après réception de Hill, de Kelsey, de Hardman, de Pringle, de McKinnon, d'un peu tout ce que tu veux. Et c'est sans doute la force là des Chiefs cette année par rapport à l'an dernier, c'est qu'on voit de plus en plus d'armes et de plus en plus de gens être mobilisés dans ce jeu. Donc deux styles un peu différents, mais deux efficacités. Et sincèrement, moi j'ai été impressionné par Allen, bien sûr, mais Mahomes, je l'ai trouvé très concentré même dans ses prises de décision. Toute la saison, on l'avait vu lancer de temps en temps la balle un peu à la rage, genre bon, allez, vas-y, je tente. Là, rien que du bon choix.
Vas-y.
Non, j'allais dire en effet que du bon choix. Aucun turnover. 8 sur 13 en troisième tentative pour Kansas City. Je crois qu'ils sont à 1 sur 1 en quatrième aussi. Ils ont nettoyé en tout cas toutes les erreurs du début de saison sur ce match. Et voilà, et ça donne une attaque à 552 yards, quoi, Grégory. Ouais.
Non, mais alors, moi, c'est encore une fois, je dis ça, c'est vraiment pas pour dévaluer une prestation plus qu'une autre. Mais c'est vrai que quand on regarde globalement sur le match, Josh Allen a été hyper solide, mais je trouve a aussi parfaitement exploité une certaine naïveté défensive des Chiefs. On a vu des touchdowns, notamment, je pense c'est le touchdown de l'égalisation avant la mi-temps, ou même le fameux touchdown où Mac Hughes se prend les pieds dans le tapis sur un des 4 touchdowns de Gabriel Davis. Je trouve que Mahomes, qui a été encore plus fort, il y a ce côté un peu, cette capacité d'improvisation qu'on retrouve par exemple sur le touchdown de Pringle, où vraiment on se dit, il y a une pression défensive qui était plus notable, je trouve, du côté de Buffalo. On est arrivé avec énormément d'intensité. J'ai trouvé que du côté de cette défense de Buffalo, sans anticiper sur éventuellement ce qu'on va dire tout à l'heure, on sentait que c'était une équipe qui avait à cœur de se racheter entre guillemets, avec des grosses guillemets, de leur défaite en finale de conférence l'an dernier déjà à Kansas City. Ils sont arrivés avec des intentions, notamment en défense. Ils ont payé le prix parce qu'il y a peut-être des absences qui sont peut-être un peu trop ressenties. Et parce que, comme le disait Raph, faut aussi réussir à attraper les mobilettes qu'il y a aux quatre coins du terrain. Mais franchement, j'ai trouvé ça encore plus fort de la part de Mahomes, parce que je dirais pas que c'était moins donné, mais en tout cas, il y avait peut-être encore plus besoin de forcer le jeu que Allen avait peut-être besoin de le faire vu la naïveté défensive du backfield en face.
Alors attends, je poursuis sur la piste que tu as donnée. Tu parlais de la défense de Buffalo. Ils sont en cause là-dedans quand même, parce qu'ils prennent 552 yards, ou alors c'est vraiment du pur talent, ils ne pouvaient rien faire?
Je ne dirais pas qu'ils ne pouvaient rien faire. En fait, si tu veux, oui, forcément, c'est boursouflé, mais encore une fois, quand on se met face à une telle attaque, moi, j'ai pas, franchement, je suis fan de Buffalo aujourd'hui. Je ne sais pas si je me dis sur ce match-là, ah, la défense, elle était nulle. Franchement, parce que ils ont quand même réussi à mettre de la pression, de l'intensité. Après, en face, il y a une bonne ligne. On le dit, on le répète, il y a un quarterback qui est capable de lancer. Et surtout, il y a des receveurs, et ça s'est vu à plus d'une reprise. Le fameux touchdown de Tyreek Hill dans le Money Time, le touchdown de Mecole Hardman, je crois, juste avant la mi-temps. c'est des joueurs qui, en yards après réception, sont des menaces permanentes dès qu'ils ont un tant soit peu d'espace. Donc, c'est sûr qu'après, en termes de yards, t'as l'impression que tu t'es fait marcher dessus. C'est sûr qu'au final, tu prends 42 points, même s'il y a une prolongation. Ça, c'est indéniable. Mais il y a tellement de menaces en face, il y a tellement de forces que c'est compliqué aussi de réussir à garder un niveau constant, je trouve, sur 4 cartons face à une telle armada, quoi.
C'est sûr que Hill, il est incroyable. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il était un peu plus en retrait pendant la saison. Là, 11 réceptions, 150 yards, un touchdown, il a été exceptionnel. Raphaël, rien à faire pour la défense des Bills.
Ouais, difficile, effectivement. J'ai un peu le même avis que Grégory là-dessus. J'ai pas l'impression qu'il faut une mauvaise prestation défensive. Enfin, souvent, il y a des jeux intéressants. Mais sauf qu'à la fin, tu es face à un système offensif qui m'a l'air trop bien rodé. Quand tous les éléments à Kansas City sont en forme physique et concentrés, en fait, j'ai juste l'impression que cette attaque est trop bien rodée pour être stoppée. Pour être stoppé, en fait, tout simplement. Et l'an dernier, ils se plantent au Super Bowl parce qu'ils ont une ligne offensive où il n'y a plus aucun titulaire quasiment et un Mahomes blessé au pied. Cette année, tout le monde va bien physiquement, il n'y a pas eu de pépin. Et tu recommences à retrouver des chips. Donc, dur à dire si, peut-être si on peut leur reprocher, c'est sur ces 13 secondes ou peut-être
qu'ils ont un peu
de naïveté. Où ils ont tellement peur de prendre un big play qu'ils jouent très préventif et du coup, ils laissent de l'espace, ils laissent à Kelce, à Hill faire des réceptions. Donc voilà, peut-être qu'on peut un peu les critiquer là-dessus, mais même en même temps, quand l'adversaire part de ses 20 yards avec 13 secondes à jouer, j'ai du mal à leur en vouloir. C'est tellement presque sur.
Oui, c'est ça. Et encore une fois, ils prennent un touchdown très rapidement de Tyreek Hill juste avant. Donc peut-être qu'il y a aussi cette volonté de vouloir, comme le dit Raphaël, jouer un peu préventif et pas subir un big play. Mais malheureusement, on est dans une configuration où Kansas City n'a pas forcément besoin d'aller chercher un touchdown à ce moment-là. Mais c'est sûr qu'en 13 secondes, on va dire que les Chiefs ont entre guillemets l'avantage. Après, c'est une bonne gestion de leur part. Ils ont l'avantage d'avoir aussi des temps morts encore à leur disposition. C'est ce qui fait aussi la diff à l'arrivée. Mais ouais, je rejoins Raph là-dessus. C'est sûr que malheureusement, ces deux big plays en 13 secondes, c'est sûr que ça ternit un petit peu la prestation derrière.
C'est ça qui montre que c'est un match incroyable. C'est que, en fait, les Bills ont perdu, mais c'est difficile de trouver des trucs à leur reprocher. Aucun ballon perdu pour les deux équipes. Ça montre aussi la qualité du match. Aucun ballon perdu. On l'a dit, la défense est face à très, très fort. Et de l'autre côté, Josh Allen, donc j'ai donné ses stats tout à l'heure, il est d'une justesse incroyable. Gabriel Davis fait le match de sa vie à 201 yards et 4 touchdowns à la réception. Ils sont à 4 sur 4 en quatrième tentative. Josh Allen a des courses décisives dans tous les sens. Il ne perd pas de loin. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus?
C'est ça, sincèrement. Tu montres, sans donner le résultat, tu montres la feuille de stats à des gens qui n'ont pas vu le match, qui n'ont pas le nom des équipes. Et tu montres que dans une des équipes, tu as un des receveurs qui fait 4 touchdowns à la réception et quasiment 200 yards de réception.
220 yards, oui.
220 yards. Les gens vont te dire bah, c'est cette équipe-là qui a gagné. C'est un truc, en fait, c'est tellement anormal ce qui s'est passé dans ces 70 dernières secondes, parce qu'il y a quasiment 18 points marqués en 70 secondes, que là, je pense qu'on va même un peu au-delà de... Et c'est là où on voit que quand tu as deux équipes de ce niveau-là, en fait, ça se joue sur un micro-détail. Les Chiefs ont failli se faire avoir sur un extra point raté ou sur un... Voilà, Buffalo se fait avoir sur 13 secondes d'inattention. C'est terrible. Mais bravo coaching staff aussi. Faut pas oublier les deux coaching staff parce que sincèrement, ces équipes-là, elles arrivent. Enfin, les Chiefs, dans un match comme ça, il n'y a qu'une seule pénalité. Greg l'a dit, il y a tous les temps morts alors qu'il reste que 13 secondes.
Il y a peut-être un bémol qu'on peut ressortir éventuellement, c'est les équipes spéciales, en un sens. Je pense à l'action notamment où Tyreek Hill, quasiment sur deux jeux de suite, d'ailleurs, parce que c'est rejoué après un flag, arrive quand même à permettre à Kansas City de grappiller du terrain et à se retrouver en bonne position. C'est vraiment les quelques petits trucs où tu peux dire « Ouais, Buffalo, ils ne sont pas facilités la tâche ». Mais encore une fois, c'est toujours la même chose. À mon sens, et contrairement à certaines équipes dont on va parler tout à l'heure, ils ne perdent pas parce qu'ils ne sont pas assez bons. Ils perdent parce qu'ils tombent sur plus fort qu'eux. Et c'est ça qui est problématique sur ce match-là et ce qui peut forcément laisser des regrets aux fans des Bills.
Si, à la limite, pour ajouter, effectivement, peut-être le kick-off à 13 secondes est mal envoyé, est mal tapé dans le sens où, à partir du moment où tu permets un touchback, déjà les Chiefs repartent des 20 et n'ont pas de temps perdu au chrono. Ouais. Si tu tapes un peu plus court, les Chiefs forcément perdent du temps à remonter un peu la balle. C'est des petits trucs,
Et après, dans un autre sens, c'est, si tu as peur du retour avec les dragsters, c'est sur du détail, vous l'avez dit. Est-ce qu'on change la règle de la prolongation? Parce que j'ai vu Raphaël dire sur Twitter, ça pourrait me faire changer d'avis.
Ouais, bah, je sais pas. Écoute, on aura l'intersaison pour y réfléchir. Enfin, la ligue est payée pour ça, donc
Moi,
je peux y réfléchir. Mais...
je sais pas si Greg sera de mon côté. En tout cas, j'ai pas changé de position. Ça fait des années que je le dis. Règle NCAA. Un ballon chacun en attaque jusqu'à ce que ça se départage.
Peut-être encore, on voit quand NCAA, il commence à changer les règles parce que ça paraît un petit peu long. Donc, ouais. Moi, je le dis très franchement, hein, parce que j'ai été du mauvais côté. Hein, lors d'un fameux Super Bowl qui s'est joué du côté de Houston, que Raphaël a suivi de près, hein, une prolongation où mon équipe n'a pas touché le ballon au moment de le perdre. Et je le dis d'autant plus facilement, moi j'ai pas de problème avec cette règle-là, dans le sens où je trouve que quand on dit que c'est une mauvaise règle, on banalise presque le fait de marquer un touchdown. J'étais réfractaire à l'idée que le simple fait de au moins marquer un field goal
Oui, ça
arrêtait le
oui.
match, parce que ça, je trouvais en effet que voilà, il suffit que tu aies un bon kicker. Et sans trop te rapprocher, en grappillant 15-20 yards, t'arrives à peu près à faire la décision. Je pense il fallait trouver, je trouve, un truc un peu plus définitif. Et mine de rien, marquer un touchdown, malgré tout, c'est pas anodin. Donc, je suis d'accord qu'il y a un côté très frustrant pour l'équipe qui le concède. Mais après, voilà, c'est toujours pareil. T'as une escouade offensive, t'as une escouade défensive. C'est aussi à la défense, si elle a besoin d'être dans le rôle du héros, entre guillemets, de faire le boulot dans ce genre de moment-là. Et malheureusement, bah voilà, Kansas City a momentum, Kansas City est dans un bon soir, et ça passe pas et ça laisse des regrets parce qu'en effet, on peut se dire que si Josh Allen avait peut-être eu la main, ça aurait peut-être été différent. Voilà, on le saura jamais. Je peux comprendre ceux qui sont déçus, mais moi personnellement, dans ce sens-là, la règle ne me gêne pas.
Moi, je reste sur Eglin CM, mais sachez en tout cas que Josh Allen, lui, ne s'est pas plaint de ça. Il a dit qu'ils avaient qu'à faire la différence dans le match s'ils ne veulent pas dépendre de la règle de la prolongation, ce qui se défend. Aussi, un petit mot pour les perdants, comme on fait depuis le début des playoffs. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, du coup, ces Bills pendant l'intersaison, à part continuer sur cette lancée et entretenir un petit peu, mettre des petites touches là où ils peuvent, là où il y a des petites, pas dire lacunes, mais rajouter de la profondeur d'effectif quand on est à ce niveau-là, quoi.
Ouais.
C'est un peu ça. Je t'avoue que l'année dernière, il y avait quelques cas de figure où on pouvait se poser la question, les fins de contrat de Matt Milano ou des titulaires comme ça. Là, globalement, il n'y a pas beaucoup de joueurs importants qui sont en fin de contrat, à mon sens. Donc, c'est vraiment de la profondeur. Et tu vois, sans anticiper sur la draft, ça va être du meilleur joueur disponible, quoi. C'est presque un luxe. Et en effet, faut assurer peut-être plus la profondeur.
Bon, et puis les Chiefs qui font quand même, on peut le dire, on mord un tout petit peu sur jeudi, mais les Chiefs ont quand même l'air d'un bon favori des playoffs là maintenant.
Bah, oui, bah, là, c'est sûr, après, oui.
Mais il y a toujours des failles.
Il y
Il y
a
a toujours
toujours
des
des
failles.
failles.
C'est
Il y a
vrai qu'on en
toujours
a peu
des
parlé,
failles. C'est important que je le place. Je
Écoutez
vais le
bien.
placer chaque année,
Écoutez bien l'émission de jeudi, la preview. Ce sera Greg et Victor, justement, donc il pourra vous parler de toutes les failles. Les Titans 16, Bengals 19. Les Bengals sont toujours là. Et franchement, c'était pas évident. Ils ont récupéré le ballon sur une interception à 20 secondes de la fin avant de faire 19 yards pour se mettre en position de frapper le field goal de la gagne à la dernière seconde. On va évidemment rendre hommage à Cincinnati, mais là, c'est pas tout à fait la même physionomie de match. Est-ce que les Titans laissent quand même pas un peu, beaucoup, échapper ce match? Moi, je vais vous dire, et je l'ai dit dans le fauteuil, hein, jusqu'à ce qu'il frappe le field goal de la gang, franchement, je pensais vraiment qu'il pouvait pas gagner ce match, quoi, vu la marée que prenait Joe Burrow, vu que les Titans s'arrêtaient pas de faire des erreurs et restaient dans le match. Je me disais, à un moment, ça va passer. Et en fait, ils ont jamais arrêté de faire des erreurs.
Enfin, encore une fois, le but du jeu, c'est pas de désigner un coupable plus qu'un autre, mais malheureusement, il y avait quand même un petit maillon faible du côté de Kansas, du côté de
Alors,
Tennessee, pardon.
tu sais qu'on m'a appris que le mais est la négation de tout ce qui le précède. Donc tu viens
Je
de dire, il ne
sais,
s'agit pas de désigner un coupable,
mais...
mais...
Ah, écoute, enfin, je suis désolé, mais sur ce match-là, mais encore, je me mets à la place d'un fan de Tennessee, je me dis quand même, Tannehill, c'est un peu abusé, quoi.
Trois
C'est un
interceptions.
match, et puis encore une fois, c'est pas des lancers non plus, c'est des lancers plein centre, ils sont interceptés de manière un peu grossière. L'interception sur Mike Hilton, même si c'est un super jeu que fait Hilton en l'occurrence, ça suit un big play obtenu par Deonta Foreman où t'es en red zone, donc enfin où t'es dans un momentum potentiel et tu casses tout direct du côté des Titans. Malheureusement pour Tennessee, ça m'a un peu trop rappelé la prestation de l'année dernière contre Baltimore. Ou que ce soit, enfin, j'allais dire offensivement ou défensivement, là en l'occurrence, c'est plus en attaque hein, que ça a posé problème, puisque tu le sous-entendais déjà tout à l'heure, la défense a largement fait le boulot, bien plus que l'année dernière en l'occurrence. Mais ouais, offensivement, c'est pas possible de proposer quelque chose aussi pauvre. Et dans un match où déjà Derrick Henry devait un petit peu retrouver des sensations, le fait d'avoir un jeu à la passe qui a pas suffisamment carburé, sorti d'AJ Brown, bah, ça devenait un peu trop compliqué pour Tennessee sur la distance, quoi.
Première interception sur la première passe du match et sur la dernière passe du match pour Ryan Tannehill avec une autre au milieu. Ils ont perdu un quatrième ballon aussi là-dedans, je crois.
Sur la première même de seconde mi-temps, non, c'est pas ça. Enfin,
c'est possible. Si... J'ai retenu première et dernière, mais après ouais. c'est tout à fait possible. Donc trois interceptions pour Tannehill. Raphaël, c'est lui le coupable.
Forcément, il est un peu plus à mettre en avant. Ça me semble évident avec avec ces trois interceptions dont. Une ou deux qui sont quand même bien pour lui.
Je confirme l'interception en début de deuxième mi-temps. Donc, moment clé bien
réussi. Bah, à chaque fois, ouais, dans des moments.
C'est un diesel.
Dans des moments bien clés. Bien sûr, il coûte parce que sa défense fait largement le taf de Gladys. Donc, il coûte. Après, pour le coup, je n'ai pas été non plus totalement convaincu par le coaching qui l'a entouré sur ce match. Je trouve qu'on a une équipe de. Alors, toujours difficile de leur en vouloir parce que c'est un très bon joueur, mais. Qui a été un peu omnibulé par le retour de Derrick Henry. 20 ballons pour 3 yards de portée en moyenne quand Freeman était sur du 16 yards par portée. Alors Freeman a une grosse course de 45 yards, mais.
Foreman,
pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que même si tu enlèves cette grosse course de 45 yards, les trois autres courses qu'il fait, il est à 7 yards par course. Est-ce que c'était vraiment le bon plan de jeu de ne donner que 4 portées à Foreman qui sortait de plusieurs bons matchs? Et Henry, on sait, c'est un coureur qui a besoin d'être nourri. Mais du coup, est-ce qu'il fallait autant le nourrir là pour... Enfin, je sais que du coup, c'est le problème. Tu as envie de le nourrir pour qu'il soit fort. Et sur une course, il peut créer la différence et blablabla. Mm. Mais je sais pas. Je les ai trouvés un peu abandonnés. Et pour moi, c'est un peu à l'image de cette 4-1 qui tente en donnant la balle à Henry plein centre. Alors que sur la ligne de scrimmage, on l'a partagé sur les réseaux sociaux, notamment sur la ligne de scrimmage, tu vois que tu as deux receveurs, dont Edgy Brown qui est tout seul. Au 1 yard, vraiment tout seul. Enfin, si Tannehill change l'audible et part sur une passe, à mon avis, enfin, voilà, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils se sont un peu tombés dans le piège de le roi Henry est de retour, faisons-lui confiance.
Moi, je suis content parce que je dis beaucoup d'Henry, mais ça, je l'avais vu venir dans la preview. J'avais dit quand tu as un joueur qui revient de blessure longuement comme ça, bah, tu sais pas ce qu'il va donner et ça peut être le piège. Et ils sont tombés en plein dedans. Et comme tu dis, sur la quatrième, le jeu, il est attendu quand même, c'est gros comme une maison. Et je suis assez d'accord avec toi, Foreman, il avait quand même du jus quand il rentrait sur le terrain. Quoi. Donc,
Mais c'est, en plus, moi, ce que je trouve un peu plus... Enfin, on parle beaucoup du fait qu'il faut s'adapter aux blessures, etc. Ça fait quoi ? Ça fait plus d'un mois quand même qu'il joue sans Derrick Henry.
Ah, ça fait depuis octobre.
Depuis octobre, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il a joué 8 matchs en saison régulière, je crois. Donc, c'est pas comme si tu avais déjà plus ou moins établi un game plan en fonction de comment tourne Derrick Henry. Donc, ça t'empêche pas, en fonction des séquences, de lui donner à manger, on va dire, mais tout en adaptant peut-être un système que tu as mis en place dans la deuxième partie de saison, qui t'a permis en plus d'engranger des victoires décisives dans l'optique de ta première place en conférence américaine. Et là, je rejoins Raph totalement. C'est, ouais, on est retombé sur le côté. C'est notre star, c'est notre diesel, et il faut qu'on l'alimente petit à petit parce que d'habitude, il finit par épuiser les défenses adverses. Le problème, c'est qu'on en revient toujours à la même chose. C'est pour ça que je parlais du match des Ravens l'année passée. C'est qu'on se retrouve dans un cas de figure où, bah, la carburation n'arrive jamais vraiment à être trouvée et que, bah, du coup, ça casse tout le rythme de ton attaque. Et que comme ton jeu à la passe était déjà déficient dès le début de la rencontre, bah, t'arrives jamais à vraiment trouver cette alternance salvatrice. Que ce soit d'ailleurs entre le jeu à la passe et le jeu à la course, ou que ce soit d'ailleurs entre les deux running backs, comme le disait Raph tout à l'heure.
Après, on regarde ce qu'ils n'ont pas fait pour dire qu'ils auraient pu gagner, mais si on regarde ce qu'ils ont fait, en fait, leur défaite, elle est logique. C'est-à-dire que bon, je ne comprends pas la conversion à 2 points sur le premier touchdown du match. Je ne sais pas si quelqu'un...
Bah alors, ils ont l'avantage d'avoir une... Je ne sais plus ce que c'est comme faute.
Pénalité,
d'ailleurs,
Oui,
il y a une pénalité, c'est ça. En fait, ils se retrouvent en position goal line presque par hasard sur une faute de Cincinnati.
Mais je vois pas.
Je serais curieux de savoir ce qu'aurait fait Raph d'ailleurs sur cette action en l'occurrence.
Sincèrement, je suis pas sûr que je l'aurais tenté pour le
coup. Mais oui, je vois pas l'intérêt.
C'est vrai que là, à ce moment-là, à 6-6, je vois pas. Ça m'a pas.
Moi, j'avoue, je me suis posé la question.
Bon, pas...
Donc, même moi qui suis plus conservateur et tout, je me suis dit,
ça
peut se tenter. Ouais. Après, c'est sûr qu'à la fin du match, tu te retrouves un peu comme un con.
Mais donc, il y a ça. Il y a l'exécution donc ratée sur la 4e et 1. Il y a les ballons perdus, etc. Au final, c'est une défaite logique malgré quand même cette performance. Défensive, 9 sacks sur Joe Bureau.
De toute façon, mais rappelons qu'ils n'ont jamais mené au score. Hein. Ils ont toujours été derrière au score. Ouais. Donc,
c'est pour ça que je comprenais pas. C'est pour ça que je comprenais pas la conversion en plus, parce que tu passes devant au début du match, c'est bien. Donc oui, ils n'ont jamais mené. Ça, c'est sûr qu'ils n'ont jamais mené. Et encore une fois, c'est logique du coup, puisqu'ils ont passé leur temps à faire des erreurs et à mal exécuter et à pas être inspirés. Mais encore une fois, donc je disais, 9 sacs sur Joe Burrow. Un seul touchdown offensif au final, hein, pour Cincinnati quand même, sur ce match. Avec un excellent kicker, je l'ai dit, hein, field goal à la dernière seconde. Mais du coup, c'est vraiment l'attaque qui les tue. En défense, ils ne pouvaient pas faire beaucoup mieux.
Ah non, clairement. Là, le front seven, que ce soit Landry, Simmons, Autry, enfin, je veux dire là, on sait que c'est le trio fort du côté de ce front seven de Tennessee. Et ça a été la confirmation sur ce match-là. Et ouais, surtout sur les troisièmes tentatives, ils s'en sont donnés à cœur joie. Donc ouais, non, franchement, là-dessus, il n'y a pas grand chose à dire. Là, la défense pouvait pas faire grand chose de plus. Même le jeu au sol est globalement bien contenu. Mmh. Après, on dira, il y a des fulgurances avec Burrow et Chase, mais bon, les deux sont bons. On va pas non plus leur reprocher de gagner des yards, quoi.
Ah, mais les stats sont délirantes. 9 sacks sur Joe Burrow, il est sous pression sur 32% de ses tentatives. Alors honnêtement, je sais pas d'où sort la stat. Hein. Moi, je pense qu'il est sur NFL.com, mais j'avais l'impression que c'était sur 50% ou plus.
Ça donnait plus.
Voilà. Ouais, mais du coup, tu te dis, dans ces conditions-là, quand tu regardes juste la feuille de stats, comment il arrive à 348 yards? Alors, c'est plein de yards après réception, évidemment, parce qu'il y a seulement 3 passes qu'on fait plus de 15 yards dans les airs. Hein. Il y a 242 yards après réception sur les 348, mais c'est un match…
Il lance beaucoup aussi. Hein.
Oui, il lance 37 passes.
Ouais. Il y a deux fois plus de passes que de courses. C'est pas énorme, oui, en soi, 37 passes, mais en tout cas, sur le gameplay offensif, c'était beaucoup plus axé sur du jeu aérien. Quand même.
37 pour 18, mais du coup… C'est des fulgurances, en fait. Il y a une grosse passe pour Chase au début pour le premier field goal, une grosse passe pour Chase à la fin pour le deuxième, et un drive construit autour des vestiaires. Voilà.
Mmh. Ouais, après, ce côté fulgurance en attaque, ils l'ont souvent eu cette saison, où ils explosaient les défenses adverses par des big plays. Alors là, du coup, ça s'est pas fait par des vrais big plays, en tout cas dans les airs avec des longues passes, mais malgré tout, c'est des big plays qui sont allés chercher les receveurs. Donc, moi, j'ai trouvé qu'offensivement, ils ont presque eu un peu le même scénario que d'habitude, sauf que bon, bah là en red zone, c'est un peu plus bloqué que par moment, avec peut-être un Zach Taylor un peu trop conservateur à mon goût. Enfin, en tout cas, s'il pense battre les Chiefs à coup de field goal, à mon avis, ça va être un poil compliqué.
On avait déjà dit qu'ils avaient du mal à finir dans la red zone.
Oui, bah c'est clairement une de leurs trucs de la saison, hein, et axe de progression pour tout le monde, et pour Burrow, pour Zach Taylor, pour. Mais oui, clairement, offensivement, ils n'ont pas brillé, défensivement, ils font leur match. Mais
t'allais parler de la défense, Alain, ou tu veux finir?
Non,
sur
j'allais lancer le nom magique. Attends, ça fait des semaines qu'on attend de t'avoir dans l'émission, Greg. Ça fait des semaines qu'on attend ce moment.
Ouais.
Est-ce que t'as un peu pesté contre Zach Taylor, par exemple, quand Joe Burrow prenait la marée en permanence et qu'il avait pas l'air de s'ajuster énormément, par exemple? Alors attends, je vais reformuler. Est-ce que Zach Taylor a fait un bon match?
Non, mais il y a des erreurs, en effet. Après, c'est pas, j'ai pas eu dans la sensation qu'ils risquaient de leur tirer une balle dans le pied non plus. Mais c'est aussi à mettre en perspective avec ce que faisait Tennessee en face. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est un peu tout, enfin, c'est-à-dire si tu mets ça sur un curseur totalement différent, c'est la même logique que Kansas City Buffalo. Oui, le match de Zach Taylor est pas fabuleux, mais c'est toujours un peu moins calamiteux, on va dire. Que match qu'a pu faire Tennessee, notamment offensivement. Et ouais, sur ce match-là, enfin, moi, c'est un peu ce qui me faisait peur pour Cincinnati pendant très très longtemps, notamment au début de l'ère avec Taylor. Mais défensivement, tout est au point. Et sur un match où Larry Ogunjobi ne joue pas, sur un match où manifestement Trey Hendrickson traîne encore des petites blessures parce qu'il n'a pas forcément autant pu contribuer que d'habitude. Et pourtant, voilà, ça a été extrêmement solide. Ça a plié sans rompre pour le peu de fois où Tennessee a vraiment essayé de les mettre en difficulté. Ça a provoqué des turnovers décisifs. Enfin, ouais, c'est une équipe homogène et ça rappelle une nouvelle fois que les défenses en playoff, c'est extrêmement précieux. Après, est-ce que ça tiendra jusqu'au bout? On ne sait pas, mais ils ne vont pas s'excuser non plus d'éliminer des équipes qui ne sont peut-être pas suffisamment appliquées avec une équipe de Tennessee qui a quand même eu 15 jours pour se préparer. Voilà, face à un jeu au sol qui est extrêmement attendu avec le Messi d'Eric Henry qui était de retour du côté de Nashville. Ben voilà, ils font un match extrêmement appliqué, même si c'est pas hyper flashy, ils arrivent quand même à provoquer les pertes de balles. Mais voilà, pour répondre à ta question, non, Zach Taylor, ça m'a pas plus sauté aux yeux que ça. Mais je trouve que la prestation défensive a au moins compensé le peu d'inspiration en attaque.
Disons que la question, c'était de savoir si tu étais toujours un hater de Zach Taylor.
Je le répète, je ne suis pas un hater de Zach Taylor. J'étais extrêmement inquiet pour les Bengals à sa prise de fonction de par les décisions qu'il a prises. Manifestement, il me donne tort et tant mieux pour Cincinnati que ça leur permette d'arriver à ce stade de la compétition.
Raphaël, toi, t'as un truc contre Zach Taylor ou ça va?
Bon, je le trouve un peu timide quand même. Je le trouve un peu timide, mais bon, après, j'avais déjà fait la remarque quand la semaine dernière ils se qualifient, qu'ils auraient pu enfoncer le match un peu plus tôt en tentant un peu plus. Là, j'ai aussi la même impression. Maintenant, il est en troisième année, deuxième année de son quarterback. Bon, il lui faut peut-être un peu plus de temps pour se.
Bon, voilà. Et bravo à leur kicker quand même. Il faut le dire qu'il a été impeccable.
C'est vrai.
Taper sur les kickers. Donc, Evan McPherson, pour ceux qui veulent retenir, il est rookie. Un mot pour les vaincus. On fait quoi chez les Titans pendant l'intersaison?
Il faut aller me chercher un slot receiver là, un peu explosif parce que le jeu offensif à la papa, ça va 5 minutes. Mais on s'est tapé sur John Gordon à l'époque du côté de Las Vegas. Mais là, au bout d'un moment, avec tout le respect que j'ai pour Derrick Henry, avec la capacité d'explosivité qu'a AJ Brown, tenter Julio Jones, c'était une bonne chose, mais on a vu qu'il n'a pas apporté ce qu'il aurait pu apporter, en tout cas ce qu'il a déjà pu apporter par le passé. Et ouais, Chester Rogers, c'est peut-être un peu trop léger. Il manque vraiment un joueur explosif capable d'apporter une alternance salvatrice au niveau du jeu offensif. J'en démords pas.
Un slot receiver. Raphaël, tu mets quoi, toi?
Ouais. L'attaque me semble effectivement slot receiver. Ça me semble plutôt correct. À vérifier ce qu'ils vont faire en défense. De mémoire, il y a quand même pas mal de contrats qui arrivent à leur fin en défense.
Donc, il y a Landry notamment. Il y a quelques linebackers.
Ouais, c'est ça. Donc, il y a ça à gérer. Suivant ce que tu fais avec ces contrats-là, il y a peut-être des joueurs à aller chercher du coup. Donc, à voir.
On va parler des Rams. Jingle Kurt Warner.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
Et oui, ils ne sont plus à Saint-Louis, mais Kurt Warner veille toujours sur les Rams à Los Angeles. Ça se jouait à Tampa Bay, 27 pour les Buccaneers, 30 pour les Rams. Il y avait 27-3 pour les Rams. Le match semblait plié, et puis Sean McVay est devenu frileux, euphémisme. Et Tom Brady est resté Tom Brady. Deux touchdowns pour les Buccaneers dans les 4 dernières minutes pour égaliser. Mais il restait 42 secondes. C'est un thème, hein, ce week-end, il ne fallait pas laisser des secondes. 42 secondes, Matthew Stafford trouve Cooper Kupp pour 20 yards, trouve Cooper Kupp pour 44 yards. Field goal de la victoire pour Matt Gay à la dernière seconde. Tous les matchs, sauf celui des Chiefs, se sont joués sur un field goal à la dernière seconde, d'ailleurs. Les Rams sont en finale de conférence. Tom Brady est en vacances. Sur la physionomie du match, c'est assez logique. Les Buccaneers ont été rattrapés par les blessures sur la ligne offensive notamment, et c'est ça qui les met dans le trou à 27-3. Raphaël.
Oui, sur la physionomie du match, effectivement, c'est assez logique. Los Angeles domine très rapidement la rencontre, prend 24 points d'avance. Comme tu dis, il y a ce match-up qui est souvent un match-up clé quand tu affrontes Tom Brady en play-off, celui de la ligne défensive, que Los Angeles remporte assez facilement, sans aucun doute, en partie grâce aux blessures, notamment celle du tackle Wirfs, du côté de Tampa, qui a fait beaucoup de mal. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas se dire que c'est que à cause de ça. Il y a eu beaucoup de blitz intelligents appelés, beaucoup de couvertures déguisées du côté par Raheem Morris. Donc, je pense qu'aussi, il y a eu de l'inventivité qui a permis de mettre de la pression sur Tom Brady, et notamment depuis le milieu de la ligne. On sait que c'est aussi souvent un truc qui perturbe sa mécanique. Alors, du coup, ils se sont ajustés à un moment, Tampa Bay, en lançant encore plus rapidement que prévu et encore machin. Sauf qu'on voit bien que Tom Brady, c'est une machine parfaitement huilée, et que des fois, quand il y a un petit grain de sable là-dedans, on sent très rapidement qu'il y a une mécanique qui n'est plus tout à fait la même, qui commence à louper quelques receveurs ouverts ou qu'il ne les voit pas, que les lances et ça s'enraigne progressivement. Là, il y a ce dernier carton un peu fou, où il y a une espèce d'aura mystique qui se crée, ils reviennent et que c'est... Mais je mets presque ma main à couper que si on le rejoue 10 fois ce match, 9 fois sur 10, ça ne se passe pas comme ça. Et en fait, les Rams le gagnent facilement.
Greg, on a vu un peu au début, en effet, ce Brady frustré des jours où il y a de la pression sur lui en playoff. Il avait la même tête que quand il perd contre les Giants. Ou quand je trouve qu'il y avait ce truc du Brady. Et comme disait Raphaël, ce côté, la mécanique se dérègle et tu sens qu'il s'agace et tu sens que ça ne va pas. Et après, voilà, il y a ce côté miraculeux de la fin de match qui a failli être un truc légendaire. Mais encore une fois, logiquement, si McVay, et on va y revenir, ne devient pas aussi frileux, ce match, il était quand même très Rams.
Oui, enfin, après, je vais pas trop répondre aux deux questions en même temps, mais je ne sais pas. Moi, j'attendais de voir forcément... Il y a eu ce fameux temps d'adaptation qui était énormément lié. Et je pense que Raph a commencé à en parler. Pour moi, il y avait deux match-ups forcément très importants. C'était du coup le remplaçant, ou en tout cas les tackles de Tampa contre Von Miller et compagnie, et le duel entre Mike Evans et Jalen Ramsey. Et on a vu que le pass rush a rapidement réussi à déborder cette O-line. Et je trouve que le match-up entre Evans et Ramsey en première mi-temps a quand même quasi exclusivement tourné à l'avantage du DB des Rams. Evans a une meilleure fiche de stats au retour des vestiaires de mémoire. En tout cas, il y a notamment tout un drive où Brady joue quasiment que sur lui. D'ailleurs, à un moment où Ramsey ne couvre pas toujours sur lui, soit dit en passant. Mais ça a aussi coïncidé avec ça. C'est-à-dire qu'on a un jeu au sol qui n'a peut-être pas été pleinement performant aussi du côté de Tampa Bay. En tout cas, on n'a pas réussi à trouver la carburation, alors que paradoxalement, les premiers snaps étaient assez intéressants. On a vu quelques gains assez intéressants plein centre de Leonard Fournette. On n'a pas forcément poursuivi dans cette lancée du côté de Tampa et de Byron Leftwich. Mais c'est vrai que de l'agacement, il y en a eu. Maintenant, je ne l'ai pas ressenti à titre personnel, j'entends, aussi nettement que dans d'autres matchs. Par exemple, le fameux match face aux Saints, on le voit balancer son ordi. Ça ne m'a pas choqué autant que ça.
Après, attention, je ne dis pas que c'est la cause principale. Enfin, il y a évidemment la déliquescence de cette ligne sur ce match, mais il y a d'autres choses. Tu y as fait allusion. Leonard Fournette termine à 3,9 yards par course. Ils n'ont pas beaucoup de yards parce qu'ils sont décrochés à un moment, etc. Mais c'est un truc qu'on a beaucoup oublié des playoffs de l'an dernier. Leur jeu au sol est très performant l'an dernier. Et je trouve que c'était sous-coté quand même dans ce titre. Ça joue là-dessus. Et après, si on reste sur le supporting, les role-players, les mecs autour, Fournette est donc pas au niveau, mais peut-être parce que la ligne n'aide pas aussi. Et c'est là, dans un match comme ça, tu disais, Mike Evans est bien capté par Jalen Ramsey pendant une partie du match, même si c'est sur lui qui met le touchdown. Hein. Mais c'est dans ce match-là qu'Antonio Brown leur manque, fatalement.
Oui, mais encore une fois, tu vois, c'est pareil. Est-ce que le play call est suffisamment… Alors, encore une fois, c'est boursouflé parce qu'en effet, Tampa court pendant une majeure partie du temps après le score. Mais je veux dire, même en première mi-temps, je trouve qu'on n'a peut-être pas suffisamment utilisé Leonard Fournette. Alors, on voyait que la ligne offensive, justement, était débordée de toutes parts et que Brady avait peut-être un petit peu moins de temps pour lancer. Je pense que ça n'aura peut-être pas été une mauvaise chose de tenter justement ce run-stop des Rams, qui n'est pas forcément la valeur sûre de l'équipe. Donc voilà, cette alternance peut-être en première mi-temps aurait fait un petit peu de bien. Après, c'est sûr que derrière, quand tu es à 27-3 à un moment donné du match, tu ne vas pas te dire « bon bah les gars, on va courir tranquille, on va laisser le chrono couler un peu ». Mais ouais, c'est dans ce sens-là où je me dis, voilà, à partir du moment où tu as, entre guillemets, hein, avec des grosses guillemets, que Evans et Gronkowski qui sont capables d'apporter dans le domaine aérien, apporter un petit peu plus de variété dans une attaque qui a beaucoup de bobos, ça n'a peut-être pas forcément été une mauvaise solution.
Gronkowski qui est un peu pato quand même aussi.
Oui, mais il fallait ça. Bon, il fait 4 réceptions sur 11 cibles. Hein. On est d'accord, c'est pas fabuleux, mais il a toujours cette aptitude en tout cas à faire des gros gains et à savoir se démarquer à un moment donné pour permettre à Tampa de potentiellement atteindre la zone rouge. Donc ça, c'était non négligeable quand même du côté de Tampa, et c'est sûr que c'est pas sur toute la durée d'un match, on est d'accord.
Raphaël.
Oui, Antonio Brown a manqué, Godwin aussi. Bon, il y a un Bruce Arians aussi et un Byron Leftwich qui, moi, je trouve, ont continuellement sous-utilisé des Cameron Bray, des O.J. Howard dans le jeu aérien, qui sont des joueurs qu'on n'a quasiment pas vus depuis un an, j'ai envie de dire, qui sont presque portés disparus.
Alors, O.J. Howard, c'est une énigme. Depuis qu'il est à Tampa, on attendait Monts et Merveilles, on s'est tradé, pas tradé.
Moi, je trouve que c'est même une énigme depuis que Tom Brady est arrivé, parce que sa première saison de mémoire avec sa première saison qui correspondait à la dernière de Winston, de mémoire, il fait quelques stats pas déshonorantes.
Mais il est, je peux te les donner, je les ai sous les yeux. Donc, c'est un choix du premier tour, hein, pour ceux qui ne se rappellent pas, en 2017. 26 réceptions en 2017, 34 en 2018, 34 en 2019. Et Brady arrive, 11 en 2020, 14 en 2021.
Ouais, bah voilà, je trouve qu'il y a, tu vois, par exemple, l'utilisation de ces deux joueurs me surprend un peu parce que c'est des joueurs qui ont eu l'habitude de gagner des yards à la réception, qui ne sont pas des manchots. Est-ce que dans une saison où Brown et Godwin ne sont plus là, est-ce qu'il ne fallait pas? Alors, je sais qu'en cours de saison, maintenant, Tom Brady est tellement intelligent que je pense qu'en cours de saison, il lui rajouter des jeux avec un ou deux tight ends supplémentaires. Je suis pas sûr.
Oui, surtout qu'il a souvent été habitué à jouer avec ses tight ends, quoi.
Bah, oui, c'est ça. Il a connu aux Patriots un petit système à deux tight ends qui a donné un peu de choses, quand même.
Un peu révolutionné la ligue, il paraît.
Voilà. Donc, bon, c'est vrai que, voilà, moi, il y a des trucs comme ça un peu offensifs dont j'ai jamais été trop fan avec Arians et Leftwich. Et je trouve que là, c'est un peu réapparu. Après, ils le perdent, enfin, Ouais, drôle de match. Ils le perdent aussi défensivement en début de match, ce match, parce qu'ils prennent la marée en défense alors qu'on en attendait peut-être plus au début.
C'était la première fois de l'année qu'ils jouaient avec leur 11 titulaires défensifs. Il y a eu en effet des trous en couverture. Bon, alors les Rams ont très bien joué le coup hein, quand même au début. On va parler peut-être en deux temps pour les Rams. S'ils mènent 20, 23 à la mi-temps, 27-3 dans le troisième quart. Jusque-là, tout va bien. Matthew Stafford, 28 sur 38, 360 yards, 2 touchdowns. Là, Sean McVay fait un bon match. Sur le début de match, il profite bien des faiblesses de la défense de Tampa. Et Gregory a l'air. Il n'a pas l'air très.
Ouais,
Non.
je sens, je sens. Vas-y,
Bah,
poursuis,
vas-y,
mais
vas-y. Donc,
je sens que je vais être sceptique avec ce que tu vas dire.
Non, non, mais vas-y, 27-3. Donc, jusque-là, ça se passe bien quand même. Matt
Oui,
Stafford
bah
fait
alors,
un bon
c'est.
match.
Ah non, mais très clairement. Après, si l'idée, c'est de dire qu'il a joué trop conservateur. Qu'il a joué petit bras parce qu'il menait de 24 points, j'ai presque envie de dire encore heureux, quoi. Mais
Alors après, il y a petit bras et petit bras quand même. Course,
ouais.
course,
Mais
course,
ça dépend.
punt.
Mais je suis d'accord avec vous. Après, c'est pas de la faute non plus de Sean McVay s'il y a des fumbles en cascade.
Alors, je,
En
ben
termes
alors, je,
d'exécution, c'est
alors,
peut-être un
je
peu
vous
autre
donne,
chose.
je vous donne le scénar au moment où il y a 27-3, fumble, donc pour les Rams, hein, fumble, punt, fumble, field goal manqué, punt, fumble. Donc oui, après, il y a aussi des punts où il se bat pas beaucoup pour aller chercher autre chose, hein.
Bah ouais, c'est ça. Moi, j'ai quand même. Il y a deux drives notamment où les drives commencent par deux courses de Cam Akers et des courses. On
Oui,
peut.
mais,
Enfin, plein
il, non, mais,
centre. Bon,
non, mais
moi, je sais.
je suis
Je sais
d'accord
pas.
avec vous. Il
Bon,
mène de
voilà.
24 points. Le but du jeu, c'est de laisser couler le chrono et de faire en sorte que Brady ait moins le ballon possible.
Oui,
Enfin,
mais tu
toi-même.
peux laisser écouler avec des passes de 5 yards aussi. Fait, tu vois,
Tu peux, mais en l'occurrence, tu peux aussi essayer de solliciter un petit peu ton jeu au sol. Je parlais tout à l'heure de Tampa qui n'a peut-être pas utilisé assez son alternance.
Enfin.
On sait que la force de Tampa, globalement, au niveau de la défense, même si c'est moins marqué que l'année dernière, mais ça reste quand même une force cette saison, c'est le run stop. Tu peux quand même essayer malgré tout de laisser couler le chrono en te disant bon, on va les obliger à égrener leur temps mort. Après, encore une fois, je le répète, en termes d'exécution, il y a les fumbles de Cam Akers. Tu récupères quand même un fumble sur le strip sack de Von Miller, je crois.
En
Derrière, tu
plus.
as ce snap qui est complètement foiré par le centre.
La meilleure.
Je suis pas en train de vous dire que Sean McVay a peut-être parfaitement géré cette deuxième mi-temps, mais tout
Disons
lui
qu'après
incombe pas,
le
loin de là, quoi.
match il y a 2 semaines contre les 49ers où ils se font à nouveau, où ils se font déjà remonter totalement comme ça parce qu'ils jouent plus grand-chose,
Oui,
je trouve
oui.
qu'il y a une petite tendance à se.
Et puis j'allais dire, moi, Greg, tu le citais tout à l'heure, donc je me permets d'y revenir, mais tu es quand même le mieux placé pour savoir qu'on ne bat pas Tom Brady en s'arrêtant de jouer au milieu du troisième carton, non?
Oui, enfin bon, il y a des.
Suis
Encore.
désolé, mais.
J'ai pas dit que. Encore une fois, on ne parle pas d'arrêter de jouer, mais si vous me dites que c'est une mauvaise solution de faire des jeux à la course, je ne suis pas tout à fait
Non,
d'accord
c'est
là-dessus. Après,
exactement ce qu'on dit.
les
Et puis.
attaquants des Rams ne sont pas obligés de rendre le ballon à chaque fois qu'ils le touchent,
Oui,
quoi. C'est
alors.
ça qui est un peu problématique.
Après, c'est pareil, pourquoi tu donnes le ballon tout le temps à Cam Akers qui n'arrête pas de le lâcher alors que tu as Sonny
Non,
Mitchell
mais
qui lâche
tu
autant de
vois,
fumble
non,
que
mais tu
ça
vois,
en 2 ans?
tu prends l'exemple, en l'occurrence, d'Atlanta au Super Bowl. Moi, ce que j'ai souvent reproché, notamment, enfin, reproché avec des grosses guillemets, parce qu'encore une fois, c'est ce qui a permis à Atlanta d'arriver au Super Bowl, c'est justement la gestion contraire de Shanahan. C'est le côté, on joue en shotgun, ce qui peut occasionner derrière des pertes de balles, ce qui peut occasionner des choses un petit peu compliquées. Là, pour moi, faire du ball control dans un moment où le but du jeu, c'est d'avoir la main sur le match et encore une fois de permettre d'éviter en tout cas à l'attaque de Tampa d'avoir enfin de faire en sorte que l'attaque de Tampa ait le moins ballon possible, c'est pas ce qui me paraît le plus saugrenu. Après, encore une fois, oui, c'est sûr que avec derrière les erreurs qui sont commises, qui ont été commises par l'attaque par les attaquants des Rams, c'est sûr que le momentum,
Ouais, mais
doucement mais sûrement, a quand même glissé, quoi.
tu vois, c'est un des thèmes de l'année. On dit pour gagner, mettez le ballon dans les mains de vos playmakers. Pourquoi tu ne le mets pas dans les mains de Cooper Kupp, Tyler Higbee et Odell Beckham plutôt que de Cam Akers qui est là depuis 3 semaines, quoi?
Enfin, honnêtement, je pense pas qu'il a fait que courir, mais après, encore une fois, je suis pas en train de dire que tous les choix de Sean McVay étaient bons, mais je reviens juste sur la question jeu à la course et la preuve, tu vois, ton exemple est intéressant. Cooper Kupp fait un fumble.
Oui, non mais très
Cooper
bien.
Kupp fait un fumble. Donc, tu enfin, c'est on est totalement d'accord là-dessus. Il y a eu une deuxième mi-temps où on s'est un petit peu endormi du côté des Rams. Après, encore une fois, c'est pas la première fois dans un match de foot US que les momentum peuvent aller très rapidement d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas besoin d'en remonter au Super Bowl 51 en l'occurrence pour voir ça. Enfin, c'est une marque de fabrique globale. Enfin,
T'avoueras
parce
que
que
c'était un poil
souvent,
timide quand même, quoi.
et encore une fois, il y a deux touchdowns d'écart à 3 minutes de la fin. C'est le touchdown de Mike Evans qui relance un peu le suspense dans une rencontre. On a l'impression que les Rams filent doucement mais sûrement vers la fin du match, vers la victoire finale. Et oui, après, ce qui complique la chose, en effet, c'est que tu as un fumble rapide, etc., etc. Mais je le répète, tous les choix de McVay sont pas bons, mais c'est globalement l'équipe qui s'est peut-être un petit peu endormie sur ses lauriers. Et ouais, le backfield offensif ou au niveau des pertes de balles, que ce soit Mitchell ou Akers, va vraiment falloir corriger ça parce que tu pourras pas gagner un Super Bowl dans ces conditions.
Moi, si tu veux, j'ai eu tellement l'impression de le voir souvent en NFL depuis qu'on regarde la NFL. Par exemple, je pense justement le drive qu'ils ont juste avant le touchdown de Mike Evans, avant les 3 minutes, là, où le drive, c'est course en première, course en deuxième, petite passe en troisième et punt. Mmh. J'ai eu l'impression, ce schéma-là, de le voir tellement en NFL, qu'à l'opposé, on voit des Bills et des Chiefs qui tentent des passes en première, même s'ils sont devant au score, parce que voilà, après, je suis d'accord. Effectivement, si Cam Akers, de toute manière, ne fait pas ses fumbles, McVay a raison de le gérer. Donc, c'est aussi toujours pareil. C'est facile de dire qu'il a tort parce que le scénario fait que ça lui donne plus ou moins tort. Mais c'est juste notre sentiment. C'est que est-ce que quand tu as Stafford, Beckham, tout ça, tu ne peux pas essayer de jouer un peu plus sur le jeu aérien à ce moment-là, parce que le jeu aérien peut aussi faire perdre du temps.
Moi, j'entends ce que vous dites, mais tu vois, par exemple, les Chiefs et les Bills, on les a pas vus dans ce scénario-là parce qu'en l'occurrence, ils étaient dos à dos pendant tout le match.
Oui, oui.
On ne sait pas si avec 20 points ou plus d'écart, surtout avec un Josh Allen mobile, par exemple, si on n'aurait pas fait des jeux en étant un peu plus à la course, mais en misant peut-être plus sur le QB. En l'occurrence, Matthew Stafford n'a pas cette faculté-là. Mais oui, encore une fois, je te rejoins. L'idée, c'est pas de dire « Ah ouais, c'est super, les jeux, première course, deuxième course, troisième petite passe ». Mais oui, le scénario, en tout cas, je trouve, s'y prêtait. C'est plus dans ce sens-là.
Cooper Kupp a 9 réceptions, Odell Beckham en a 6, Higbee, Akers, Van Jefferson. Enfin, il y a bon petit groupe de cibles quand même quand ça tournait pour les Rams. Match passionnant à venir contre les 49ers qui les ont beaucoup battus. Vous en parlerez dans la preview ces derniers temps. 6 victoires pour les 49ers sur la série actuelle. Pour les Buccaneers, à moins que vous vouliez ajouter un truc sur le groupe de cibles, mais sinon on va passer au petit mot pour le perdant. Allez, on passe au petit mot pour le perdant. Brady continue ou pas? Là, on est vraiment dans la boule de cristal. Hein. On est dans l'analyse.
Alors, je ne vais pas dire de bêtises. Il me semble avoir vu qu'il considérait la retraite, surtout s'il gagnait le Super Bowl.
C'est un peu. Moi, j'ai rigolé sur Twitter à dire que c'est un peu Marc de la Flamme. C'est-à-dire qu'il dit qu'il sait, mais que ce n'est pas le moment de le dire, qu'il a pris une décision, mais qu'il ne sait pas.
De toute façon, ce qu'on sait avec Brady, c'est qu'on ne sait rien. Mais concrètement, a priori, il y avait plus de chances qu'il s'arrête, entre guillemets, au sommet, un petit peu façon de John Elway, qu'il s'arrête coûte que coûte. Après, encore une fois, je vais dire, moi, je me mets à la place de Gisèle, à la place de sa famille. Je dis, le gars, faut peut-être qu'il profite un peu de sa vie perso aussi. Alors, c'est monstrueux ce qu'il arrive encore à faire à 44 ans, on est d'accord. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, le gars, il a aussi envie de dire, j'ai envie de me faire un petit golf de temps en temps, peinard.
Il paraît, j'ai entendu ça chez nos confrères de Randy NFL en podcast, il disait qu'apparemment, Gisèle veut qu'il prenne sa retraite depuis 2017.
Hein, tu vois.
Donc, visiblement, elle n'a pas son mot à dire, c'est ça que je veux dire. donc voilà.
Pourtant, elle est plus connue que lui. C'est vrai. La star.
C'est vrai. Donc,
honnêtement, si tu me poses la question, je pense que l'idée, au moins peut-être du côté de Tampa, c'est qu'ils fassent au moins une dernière année, peut-être ne serait-ce que pour former Kyle Trask qu'ils ont drafté l'année dernière, pour le couver un petit peu dans l'optique d'une saison 2023. Après, Brady va sûrement peut-être pas prendre sa décision uniquement en fonction de la franchise. Mais voilà, encore une fois, je pense qu'à l'âge qu'il a, il n'a pas forcément grand-chose à prouver. Et si demain, il a envie d'arrêter, qu'il arrête.
On a eu la discussion avec Raphaël avant l'émission. On se disait... C'est dommage, s'il part là, on ne le savait pas, il n'y a pas eu des petites larmes d'après-match à la Drew Brees, à la Ben Roethlisberger, etc. Mais au pire, ils peuvent organiser une giga presse conférence de presse avec Belichick, avec tout le monde, et un truc génial, etc. Donc, pourquoi pas. Moi, j'ai du mal à m'imaginer qu'ils partent comme ça, alors qu'on n'en parlait pas la veille du match, et puis qu'en fait, le lendemain, peut-être que... Moi, c'est pareil, je verrais bien une dernière saison quand même, rien qu'au moins pour qu'il ait les honneurs toute l'année, des trucs comme ça, quoi. Raphaël?
Oui, sans doute, il va faire une dernière saison. Je pense que ça peut-être jouer aussi. Il y avait des rumeurs un temps autour du Gronk, d'Arians. Est-ce que ça peut pas jouer un peu tout ce destin commun, tu vois, se dire bon, on se fait une dernière saison. Et puis en plus pour Tampa Bay, ça pourrait être l'occasion. Tu fais une dernière saison avec Arians, Gronk et Brady, et derrière tu files les commandes à Todd Bowles ou à Byron Leftwich, un des deux coordinateurs qui sont hyper demandés ailleurs. Tu vois, ça peut te permettre d'avoir une transition douce. ça pourrait être la meilleure solution.
Pour rejoindre ce que tu dis, et ça va peut-être faire aussi une passerelle avec les besoins des Buccaneers, ça va beaucoup dépendre de comment ils vont gérer la free agency. On a rempli énormément de mecs justement du titre de l'année passée en disant on est de nouveau en mission entre guillemets cette année pour conserver la couronne. Il va y avoir beaucoup de fins de contrat du côté de Tampa et il va falloir voir comment on adapte on va dire sa ligne de conduite du côté du front office des Bucks par rapport à ça.
Puis là, c'est le serpent qui se mord la queue parce que les mecs vont pas vouloir re-signer s'ils savent pas si Brady revient et Brady qui fait quoi, etc. Allez, s'il reste, on fait quoi, Raphaël?
S'il reste, priorité, tu choisis le meilleur joueur qui te passe sous la main.
Allez.
Ouais, ce serait bien de loucher sur un petit corner quand même, hein, parce que Carlton Davis, ça va, mais le reste, ça ne vend pas beaucoup de rêves pour l'instant.
Packers 10, 49ers 13, le dernier match de la semaine pour nous. 3 ans, 3 saisons à 13 victoires, 3 éliminations catastrophiques en playoff. L'histoire se répète à Green Bay, c'est le jour de la marmotte. Référence un peu âgée. Une défaite, donc, alors que les Niners ont marqué un seul touchdown et c'était sur un punt bloqué à 5 minutes de la fin, ce qui vous situe quand même l'ampleur de la débâcle pour le probable futur MVP, en tout cas double MVP même. Ils ont ensuite stoppé Green Bay, puis marqué le field goal de la gagne à la dernière seconde. Qu'est-ce qui s'est encore passé avec Aaron Rodgers et Matt LaFleur? Grands yeux de Grégory, sourire de Raphaël.
Qu'est-ce qui s'est encore passé? Dur à dire. L'équipe semblait plus prête que jamais pour aller loin cette saison. Tout se passait globalement bien. Il y a un premier drive qui est parfaitement exécuté. Tu dis, bon, OK, ça déroule, la mécanique, elle est bonne. Davante Adams, il se balade déjà au milieu de ses cornerbacks assez faibles en face. Bon, ça va être soirée tranquille. Et puis, progressivement, ils sont rentrés dans un faux rythme. Leur ligne a commencé à craquer face au pass rush des 49ers de manière peut-être un peu moins que ce à quoi, enfin, un peu plus que ce à quoi on pouvait s'attendre. Rodgers, à mon goût, a trop fait de ce qu'on appelle ball hero, a tout tenté, a montré que c'est lui qui avait. Lui et Adams pouvaient être les seuls à sauver cette équipe, alors que bon, sur certains jeux, on voit qu'il y avait des Lazards esselés, tout seuls, qui attendaient le ballon. Bon, voilà. Et puis, il y a cette équipe spéciale qui est catastrophique. Franchement, j'ai rarement vu un truc pareil. Franchement, à ce niveau-là, pour moi, c'est aussi psychologique. Enfin, je ne veux pas faire du comptoir, mais quand tu te plantes autant de fois au dernier moment comme ça,
ils avaient commencé la saison avec un match catastrophique. Ils finissent la saison avec un match catastrophique.
Il y a une forme de continuité.
C'est la boucle est bouclée. Mais c'est vrai que Rodgers, c'est un peu l'anti-Brady, hein, du coup, maintenant. C'est-à-dire qu'en playoff, il disparaît totalement. C'est devenu le joueur de saison régulière incroyable. Mais c'est vrai, Greg, c'est difficile de trouver une explication que l'explosion en vol de cette équipe. Alors là, au moins, ils n'ont pas attendu la finale de conf, hein, c'est allé direct. Mais c'est, alors il y a un excellent plan de jeu en face, le coordinateur défensif d'Emeco Ryans fait un truc incroyable avec les Niners, il avait déjà fait un énorme boulot contre les Cowboys, etc. Il y a 5 sacks, les Packers sont limités à 263 yards, etc. mais t'es le MVP, quoi. T'es le MVP, t'as Davante Adams, t'as Aaron Jones, t'as un coach qui t'emmène 3 fois 13 victoires. Qu'est-ce qui se passe, quoi?
Alors attention, hein, moi je Ralph l'a dit tout à l'heure, pour moi, le problème est extrêmement vaste. C'est sûr qu'on va forcément polariser sur le côté Aaron Rodgers parce qu'en effet, il n'y a pas le touchdown décisif, le touchdown un peu libérateur, notamment qu'on aurait pu attendre du côté de Green Bay. C'est un match où vraiment, et paradoxalement, alors que les Packers mènent pendant très très longtemps dans ce match, du fait justement de ce premier drive où il marque très vite, c'est un match où à titre personnel, j'ai regardé, je me suis dit, mais doucement, mais sûrement, je me suis dit, c'est un match que les Niners vont les gratter à la fin. Ils vont s'accrocher et ils vont aller chercher. Et ouais, enfin, on s'est beaucoup appuyé sur la défense, en effet. Alors, il y a quelques drops, en effet, des receveurs, je trouve. Et ça rejoint, j'anticipe peut-être un petit peu les points à travailler du côté de Green Bay, mais avoir un talent comme Davante Adams, c'est extrêmement précieux, mais quand il est tout seul, c'est pas possible. Et ça a un petit peu facilité la tâche, je trouve, dans le domaine aérien, justement, de DeMeco Ryans, qui n'avait pas forcément besoin de ça, vu déjà le gros boulot que faisait sa défense, notamment sur la ligne défensive. Donc ça a un peu limité les cartouches. Ils ont été très efficaces, et ça, je trouve que c'est encore plus important qu'Aaron Rodgers. Ils ont été hyper efficaces pour freiner le jeu à la course de Green Bay. Il y a un touchdown de DJ Dillon, mais par ailleurs, on l'a quasiment pas vu. Aaron Jones a surtout été efficace en sortie de backfield, ou en tout cas surtout sur un jeu, sur un moment où Aaron Rodgers gagne suffisamment de temps pour lancer le ballon et ça se termine par un field goal bloqué derrière. Donc ouais, encore une fois, c'est pareil. Je parlais tout à l'heure de Cincinnati qui était plié sans rompre. Là, très clairement, les Niners, en termes d'implication, de force collective, on peut clairement pas critiquer quoi que ce soit. Et c'est presque un symbole que le touchdown décisif soit marqué sur l'équipe spéciale, parce que je trouve qu'il n'y a pas forcément une escouade qui se dégage plus qu'une autre. Il n'y a presque pas forcément un nom qui se dégage plus qu'un autre dans cette équipe-là. Il y a des talents partout, bien sûr. Mais ouais, en tout cas, c'est plus homogène, je trouve, qu'une équipe de Green Bay où il y a quelques stars à gauche, à droite, mais où sur ce match-là, ça a été assez fouillé, en effet, et il y a eu un certain manque de rythme, notamment en attaque, ce qui doit être la clé du côté de Green Bay, en tout cas, de par l'identité que veut instaurer Matt LaFleur.
Je te trouve sympa quand tu dis qu'il y a une certaine homogénéité chez les 49ers, c'est-à-dire que la défense empêche les autres de gagner des yards et l'attaque s'empêche elle-même de gagner des yards. Donc parce que ah non mais
oui,
alors
attends, tout le temps, oui, tout alors temps, l'attaque mais... est pas fabuleuse, on est d'accord.
Ah ben pas fabuleux. Attends, moi je veux bien vous l'avez entendu
ah, ça
parce
y est.
Que non mais moi non,
le
mais...
Garoppolo show.
Non même pas. Alors même pas Garoppolo en particulier, mais ce que je veux dire c'est que je voulais prévenir. Oui, on l'a dit, Raphaël l'a dit, les équipes spéciales ont été abominables. On ne néglige pas le rôle des équipes spéciales dans cette défaite.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Mais évidemment que ça tombe sur Aaron Rodgers et Matt LaFleur, tu n'as pas le droit de mener 7-0 à la mi-temps quand les quatre premiers drives des 49ers ont produit moins 19 yards, moins 19, et que sur le cinquième, tu les as interceptés. Donc, sur les cinq drives, premiers drives des 49ers, ils sont moins 19 yards et une interception. Alors, du coup, ils sont repassés dans le positif parce qu'ils lancent un peu avant de se faire intercepter, mais t'as l'idée. Et à la mi-temps, tu mènes 7-0 à la maison.
Non, mais
en
c'est
étant
ça.
En tête de série numéro 1 avec Aaron Rodgers. En...
Ah, et c'est ça. Normalement, tu peux marquer plus de points malgré ton équipe spéciale qui est au fond du trou et qui concède un touchdown. On est d'accord. C'est pas normal de marquer aussi peu de points, même face à une aussi bonne défense.
Parce que du coup, c'est pas comme si en plus on plantait très loin dans le terrain à chaque fois et que c'était une galère, etc. Donc, c'est une faute professionnelle de perdre contre une équipe qui a gagné 212 yards en attaque et avec une bonne partie de ses yards sur la fin. Garoppolo, je vais pas redire 20 000 fois, on sait qu'il est limité. Voilà, il est toujours à deux doigts de la catastrophe. Il y a quand même, il prend une interception, il aurait peut-être pu en prendre une ou deux autres. Mais ils ont un coach intelligent. Deebo Samuel, George Kittle, ils sont décisifs quand on leur demande. Samuel va chercher le first down décisif qui leur permet d'être en position pour le dernier field goal. Donc Shanahan, il bricole avec ça. Respect, parce qu'il a clairement le pire quarterback restant du plateau. Il avait déjà le pire quarterback restant du tour précédent. Non, mais c'est même pas pour être méchant avec Garoppolo. Factuellement, non, il est moins bon que Mahomes, Allen, Stafford.
Oui,
et voilà.
Oui,
bon.
Pour le moment, c'est sûr, il est en train de réaliser un petit braquage. Il est à quoi, 20 passes complétées et il joue une finale de conférence.
C'est
sûr que si les Niners font deux Super Bowls avec les deux saisons de Garoppolo 2019-2021,
voilà,
même si 2019 c'était meilleur, mais c'était pas non plus, c'était pas éblouissant non plus. Hein.
Non.
C'est sûr que s'ils vont deux fois au Super Bowl avec ça, oui, chapeau Shanahan. Ouais.
Bon, Raphaël, on t'a pas beaucoup entendu. Hommage à la défense quand même. Alors, à la fois Shanahan en attaque et à la défense des 49ers.
Ouais, bien sûr, hommage à ce que fait DeMeco Ryan, tu l'as dit, ils se sont vachement bien adaptés, notamment à partir du deuxième quart-temps défensivement, où ils ont multiplié les prises à deux sur Davante Adams pour complètement bloquer le jeu aérien, et c'est là où en parallèle, j'en joue un peu au coordinateur offensif de Green Bay, j'ai quand même du mal à croire qu'à partir du moment où tu as deux joueurs sur Davante Adams, ça te libère pas d'autres solutions ailleurs, j'ai quand même du mal à voir que tu trouves pas la faille. Encore une fois, le coaching de Green Bay, ça faisait partie de nos interrogations avant l'intersaison, ce coaching. Ce coaching, dans les gros moments, il a encore déçu, alors qu'à l'inverse, côté 49ers, on voit que le coaching est costaud. Ça fait la différence sur ce match, mais après, j'ai été soft, mais moi, j'aurais pu passer une heure à taper un peu plus sur Aaron Rodgers, mais...
Vas-y, hein, si t'as encore 2-3 balles.
Puis, j'ai pas forcément 2-3 balles qui traînent, mais c'est vrai que On l'avait dit en plus dès l'intersaison, ce côté The Last Dance, toujours parler de lui. Mais toujours parler de lui.
Mais là on est au-delà de The Last Dance.
Parle pas de lui. Il y a d'autres quarterbacks qui, avant de commencer une saison, parlent pas d'eux, parlent de l'équipe. Et voilà, encore une fois, ça se plante à ce moment-là. Donc on verra. Mais... Sa carrière est pas finie. Je pense même que pour lui, il serait sain de partir ailleurs pour commencer un nouveau cycle. Avoir un nouveau départ, parce que là ça fait trop longtemps que la situation est
mais, Mais alors, très franchement, je rejoins tout ce qui a été dit. Et en effet, c'est la responsabilité de Rodgers, Lafleur, notamment sur ce match-là, entre autres, hein, bien entendu.
Entre autres, oui.
Mais
oui, entre autres.
C'est déjà presque miraculeux pour Green Bay de finir premier de conférence nationale avec le contexte qui était celui de la franchise cette année, quoi. Je veux dire, ça fait quasiment 2 ans que le gars, il est en guerre ouverte avec son front office. Ils arrivent quand même à tourner offensivement et à terminer déjà l'année dernière. Ils étaient premiers de conférence,
ouais,
non?
Il a réussi à se mettre en guerre avec d'autres gens pendant la saison sans les nommer. Donc, du coup, ça a peut-être mobilisé son attention sur autre chose. Il pensait
non, mais on est d'accord. Mais je veux dire, il y a Matt Lafleur qui arrive, qui veut imposer ses idées, etc., etc. Et malgré tout, avec deux caractères qui ont l'air d'être assez forts, dont celui de Rodgers qu'on ne découvre pas aujourd'hui, les mecs, ils sont premiers de conférence. Donc, c'est sûr que ça fait tâche parce que l'équipe, encore une fois, à chaque fois, elle est régulière en saison, pendant la saison, mais dès qu'arrivent les playoffs, ça se casse la gueule. Mais malheureusement, c'est pas illogique non plus quand on voit le contexte de ces deux dernières années où on a l'impression, en effet, Rodgers est un peu en roue libre et que, si ça se passe pas bien, on se retrouve dans des contextes, en effet.
Il a sa part de responsabilité. Oui, contexte.
Du coup, c'est ça, c'est pour lui. Le contexte, c'est lui qui le crée à chaque fois.
Bien sûr. Mais c'est pour ça que je rejoins Raph sur le côté, alors, c'est sûr, pour Green Bay, ça va être une grosse, grosse page à tourner. Et là, Matt Lafleur va être attendu au tournant. Mais oui, en effet, je pense que pour Rodgers, au bout d'un moment. Et je pense que très franchement, le problème, il n'y a pas de Rodgers. Hein, parce que je pense que si Rodgers avait eu la possibilité de partir, il serait déjà parti depuis longtemps, vu les différends qu'il a l'air d'avoir avec Lafleur ou encore plus avec Gutkunst depuis qu'ils sont là. Mais oui, je pense que ce sera plus sain pour tout le monde et encore peut-être plus pour Green Bay. De repartir sur une nouvelle ère avec un quarterback peut-être un peu moins je dirais pas une équipe moins otage de son quarterback mais ouais peut-être moins le côté moi avant les autres quoi.
Après il y a quand même ça qu'il faut dire, Raphaël le disait bien, les mecs parlent de l'équipe etc. J'ai quand même du mal à m'imaginer que Tom Brady par exemple, pour regarder avec lui, mais même un Peyton Manning ou un truc comme ça, regarde son équipe s'écrouler 3 ans de suite en playoff, enfin sans prendre un mec en otage à la mi-temps et lui braquer une arme sur la tête, enfin tu vois genre Rodgers ça perd, ça va, il sort, il est déçu, je sais pas,
il a toujours eu ce truc là hein, d'être un peu pas en dilettante, mais encore une fois, c'est un peu, je trouve, on va pas faire le résumé de sa carrière aujourd'hui. A priori, c'est pas annoncé qu'il arrête, mais il a toujours eu ce côté un peu en dilettante, qui était très perturbant dans le sens où quand ça passe, t'as l'impression que c'est presque un génie qui joue tranquille en chaussons, et quand ça passe pas, tu te dis en fait le gars, il est venu comme s'il jouait le dimanche entre potes quoi. Et c'est ça qui est un peu particulier, mais on l'a dit tout au long de l'année. Je veux dire, l'actualité des Packers chaque semaine, c'était Rodgers chez McAfee, quoi. C'est un peu le problème. Je veux pas amplifier parce qu'encore une fois, on l'a dit, il y a d'autres problèmes pour les Packers sur ce match-là et on va peut-être pas résumer la saison de Green Bay à une seule sortie ratée en playoff. Mais malheureusement, c'est ce qui ressort. Et si on doit aujourd'hui faire un bilan de la saison de Green Bay, c'est difficile d'occulter cette situation-là.
Mais du coup, je trouve, tu disais justement, son IQ, c'est d'être chez McAfee pour débriefer les matchs, etc., machin, toutes les semaines. Et tu vois depuis 3 ans que les mecs, ils sont pas prêts à s'arracher pour lui sur le terrain. Parce qu'on disait tout tourne autour de lui.
En tout cas,
etc.
En attaque, non, parce que la défense fait le boulot, par exemple.
Voilà. Mais t'as plus l'impression que les mecs étaient prêts à crever pour Brady ou Manning sur le terrain que lui. Ça fait 3 ans qu'il s'arrête de jouer. Il y a personne qui réagit. Pas lui, pas les autres.
Mais je vais redire ce que j'ai redit. Et encore une fois, je suis pas un adepte du révisionnisme post-draft, etc. Mais malheureusement pour Green Bay et pour le front office actuel, c'est là où on voit que le fait d'avoir privilégié un Jordan Love plutôt que des receveurs, plutôt que d'autres cibles, justement, dont je parlais tout à l'heure, c'est là aussi où ça peut être extrêmement précieux. Parce que à partir du moment où tu arrives à isoler un peu Davante Adams, même si c'est facile à dire, derrière, te retrouves avec un Mercedes Lewis qui fait des fumbles, avec d'autres joueurs qui sont moins utilisés, qui sont moins dans le rythme, donc qui sont plus à même de faire des, qui ont plus un risque de commettre des drops. C'est aussi cette problématique-là.
Si tu veux, ça j'entends, mais ce qui m'embête toujours un peu, ce qui m'embête depuis 2-3 ans, là, quand souvent on revient là-dessus sur Green Bay, il y a que Davante Adams, et ce qui est vrai, bien sûr, mais en même temps, toute la saison régulière, il n'y a que Davante Adams, il trouve les solutions. Et on a vu des matchs où Lazard faisait plus de 100 yards. On a vu des matchs où Valdez Scantling faisait plus de 100 yards. Et à chaque fois en playoff, on retombe sur que jouer sur Davante Adams, que jouer, et quand il est bloqué, ben on se retrouve sur tout d'un coup, on a l'impression que plus rien d'autre n'existe. Et, et c'est là où moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi Lazard n'est visé qu'une fois sur ce match, par exemple.
Moi, il y a un truc, encore une fois, on va pas faire trois heures sur Green Bay, mais Eddie Dillon, cette saison, il n'est pas utile que sur le jeu à la course.
Bien sûr.
On ne l'a pas vu dans le domaine aérien sur ce match-là.
Non, mais c'est bon, voilà, il y a plein de choses. Ouais.
Très bizarre. Bon, en tout cas, vous avez l'air de dire tous les deux qu'il va continuer. J'allais faire la petite boule de cristal comme
il va continuer, mais à mon sens, pas à Green Bay.
Ouais. Après, pour le coup, tu disais, s'il y en a bien un que moi je vois capable de décider un soir de se casser et rien dire à personne, c'est lui. Pour le coup, alors là, lui, il se lève demain, il se dit, j'arrête, je serai. Enfin,
c'est ça. Avec un poste plein d'élégance.
Ah non, mais franchement.
F-U.
Clairement. Clairement.
Mais parce que c'est vrai qu'on dit ça, mais même pour sa prochaine équipe et tout, on disait, il se brouille avec le management, etc. Il a quand même l'air de chercher des trucs pour s'occuper l'esprit et se brouiller avec des gens régulièrement, parce que là cette année il se brouillait avec la cancel culture, avec les gens qui l'aimaient pas, avec des gens qui étaient méchants avec lui, etc. Si c'est pas ça, ce sera autre chose, j'ai l'impression maintenant, sur la lancée.
Ouais, mais après la franchise qui sera prête à l'accueillir va tellement lui dérouler le tapis rouge que ça va peut-être bien se passer pendant un ou deux ans, tu vois.
C'est vrai aussi. Mais c'est marrant, c'est triste pour Green Bay, mais c'est la même fin que Brett Favre en fait, quoi. Pour la franchise et le joueur, ils étaient embrouillés. Favre, il n'était pas content parce qu'ils avaient drafté Rodgers. Il a fait la gueule à partir de là.
Le contexte n'est pas tout à fait même, dans le sens où Favre a dit je pars. Non, finalement, attendez, je reste.
Quand
Rafael... Rodgers n'a jamais dit je m'en vais.
Ouais, mais alors, cette année, il a quand même dit je vais penser à la retraite et machin.
Avant qu'il drafte Love, Rodgers n'a jamais dit je m'en vais.
Avant Love,
ouais, mais tu vois. Favre était la diva de ouf. Après, il avait la haine. T'imagines là, si Rodgers part, s'il rejoue à Lambeau, il va avoir la haine comme Favre quand il est revenu avec les Vikings. Et donc, je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas.
Non, mais histoire commune. Non, voilà. Tu fais le bilan.
Attends.
Pour la franchise, que deux titres sur la période. Trois peut-être. Non, trois.
Deux avec
Favre Rodgers.
Deux titres sur une période Favre Rodgers.
C'est ouf.
Ah, cher payé, hein.
Ouais. Parce que faut quand même rappeler, je veux pas en faire des tonnes et des tonnes, parce que c'est deux époques totalement différentes, mais ça a souvent été pris en comparaison et ça me saute aux yeux de plus en plus. Mais Brett Favre, c'était Patrick Mahomes avant l'heure, quand même. En termes de style de jeu.
C'est vrai. C'est
déjà à l'époque que Green Bay gagne qu'un seul titre, c'était presque une anomalie. Et là, je rejoins là-dessus, 30 ans, deux titres avec deux tels phénomènes au poste de quarterback, c'est dommage.
Je vais juste, c'était ça que je voulais dire, mais Raphaël disait, il peut se lever un matin et décider qu'il arrête, et je pense qu'il peut se lever un matin et décider qu'il reprend aussi. Moi, je pense qu'il peut s'arrêter au mois de mai et revenir le 1er septembre. Donc attention à ça aussi. Bon, grosso modo, il continue peut-être ailleurs. S'il revient, parce que au final, il est quand même sous contrat encore un an, pas. Le coach, il est là. S'il revient, scénario, on fait quoi? Des receveurs, du coup.
Ouais.
Receveurs, peut-être linebacker, même si c'est pas la priorité de la défense actuelle. Il y a eu un bon Devondre Campbell cette saison qui est free agent notamment.
Bon, on a beaucoup parlé des Packers parce qu'ils s'en vont, mais évidemment, du coup, on retrouvera cette équipe des 49ers en finale de conférence face aux Rams. L'avant-dernier top flop de l'histoire du podcast Touchdown Actu. Encore une fois, je vous rappelle, si vous voulez lancer une pétition de change.org, la rubrique a été mise à mort officiellement pour la saison prochaine. Donc, vous avez encore le top flop d'aujourd'hui.
Mais à quel niveau la barrière de changement de la pétition?
Je sais pas, 1000 signatures, non?
1000 signatures, ok.
Je sais pas, un truc comme ça. Attends, on a. Faut voir le nombre d'auditeurs par rapport au nombre d'auditeurs. Allez, on va dire à 3000 signatures. Ça ferait à peu près la moitié des auditeurs ou quelque chose comme ça.
Et un chèque à l'ordre de.
Donc, le top flop, Grégory, ton top.
Mon top, forcément, les kickers.
Ah, il m'a piqué mon top.
Ça sert, finalement, d'avoir des vos kickers.
Il m'a piqué mon top, je voulais surprendre le monde.
Trois matchs qui se jouent sur des field goals en fin de match, quand même, t'es un peu obligé. Là, en l'occurrence, après, je vous rejoins, c'est sûr que c'est toujours un peu perturbant. Là, en l'occurrence, on parlait de Kansas City Buffalo, qui est le seul match qui s'est joué en prolongation aussi parce que le kicker, il loupe un extra point. Mais voilà, c'est bien aussi de temps en temps de rappeler que ça peut être extrêmement précieux, surtout dans des matchs aussi couperés que ceux qu'on a eu ce week-end.
Bon, je avant de laisser la parole à Raphaël, c'était mon top aussi, les kickers. Evan McPherson pour les Bengals, Harrison Butker pour les Chiefs, notamment. Raphaël, ton top?
Mon top, c'est je vais aller sur le coaching staff des Chiefs. C'est peut-être pas le plus original, mais de un, pour rappeler à quel point Andy Reid est un coach franchement extraordinaire. Et on va voir où il s'arrête, hein, mais plus les saisons passent, plus je trouve que sa place au Hall of Fame ne fait qu'augmenter. Et coaching, parce que je trouve que comparé à d'autres équipes qu'on a vues au playoff avec beaucoup de. Où il y a eu beaucoup de pénalités, je pense à Dallas, où il y a eu des fins de match pas très bien gérées. Là, la maîtrise de Kansas City sur ses temps morts, sur ses dernières secondes, est sortie dans la presse, là où Andy Reid, en conférence d'après-match, a expliqué que tous les vendredis après-midi, Eric Bieniemy entraînait l'attaque à jouer et à remonter en position de field goal avec 20 secondes au compteur. Ils se sont entraînés tous les vendredis après-midi. Vous avez 20 secondes pour vous mettre en position de field goal. Et bah, je me dis que voilà, il y a un moment où c'est peut-être ce genre de choses, hein, qui fait la différence entre certaines équipes, du coaching. Et voilà, j'aime bien qu'on rappelle à quel point le coaching est peut-être important au moment où beaucoup d'équipes cherchent encore leur coach.
Il y est déjà Andy Reid au Hall of Fame.
Ah oui, pour moi, il y est déjà. Ouais, oui,
voilà. On rappelle, hein, pour les plus jeunes, 5 finales de conf et un Super Bowl joué. Avec les Eagles déjà, même s'il l'a perdu. Et donc là, il en est à 2 Super Bowls joués, dont un titre avec les Chiefs, peut-être un troisième.
Quatrième finale de conférence.
Voilà, ouais. Donc là,
ah oui, non, pour moi, il y est, mais ce que je veux dire, c'est que s'il prend un ou deux autres titres avec Kansas City,
ça va aller plus vite.
Son classement dans le top coach historique va ne faire qu'augmenter.
C'est vrai. Le flop, Greg.
Mon flop, c'est que j'ai oublié un des flops auxquels j'avais pensé avant l'émission, ça m'embête un peu. Non, mon flop, je vais pas être très original, mais les Titans. Et alors ça, je vais le dire honnêtement, hein, j'ai beaucoup de respect pour le boulot qui est fait, notamment par John Robinson, le general manager des Titans. J'aime pas cette culture qu'instaure Mike Vrabel, en fait, du côté de Tennessee, le côté on est là pour montrer qu'on est burné, on va sur le logo des équipes adverses quand on est en déplacement, etc., etc. Et on se retrouve sur des matchs aussi importants que ça et on n'est pas capable de proposer quelque chose de cohérent sur un match où, bon, on n'est pas non plus surclassé de toutes parts. Où on parle de Green Bay à raison, parce qu'encore une fois, il y a le MVP de la saison dernière, et le probable MVP de cette saison. Mais ouais, du côté de Tennessee, il y a quand même un petit gâchis. C'était presque miraculeux malgré tout qu'ils se qualifient en première place. En tout cas, c'était un heureux hasard du fait de la victoire de Cincinnati contre Kansas City à l'époque. Mais ouais, enfin, c'est quand même, je trouve, là aussi un gâchis du côté de Tennessee. Et il y a un côté, je trouve, voilà, le côté un peu orgueilleux des Titans où des fois on se dit, j'ai pas envie d'être dans un état d'esprit mauvais, le fait de me dire, ah bah tiens, c'est bien fait pour eux ou quoi que ce soit, j'en suis pas à ce point-là. Mais ouais, je me dis que des fois, ce serait pas plus mal de jouer peut-être de manière un peu plus, je sais pas, sobre et efficace. Je pense que ce serait bien de faire ça aussi du côté de Tennessee de temps en temps.
Raphaël, ton flop.
Mon flop, forcément un peu Green Bay. Une nouvelle déconvenue après une nouvelle place de premier de NFC, ça fait beaucoup dans un match qu'ils n'ont jamais su emballer. Et effectivement, comme Greg l'a dit, on sentait progressivement venir le piège se refermer sur Green Bay. Ils n'arrivaient pas à se mettre à l'abri, ils n'arrivaient pas, et progressivement tu t'es dit, ok, ça va. Donc, ouais, Green Bay, malheureusement.
Moi, j'avais Sean McVay pour sa gestion de fin de match, mais en fait, je vais être positif, je vais faire un deuxième top. C'était Joe Burrow qui a dit, j'en ai marre qu'on parle d'underdogs. C'est dur à traduire, hein. J'ai mis outsider sur le site, mais du coup, je traduis un anglicisme par un autre anglicisme. Alors, je sais pas si c'est le plus approprié, mais ça fait du bien, un mec.
Ça serait
après
les petits poussés, quoi.
Ouais, voilà, ce côté, personne ne croit en nous, en fait. C'est toujours
ouais,
ça, underdog.
C'est d'ailleurs, ouais.
Ouais, c'est plus, personne ne croit en nous et on le fait quand même. Et donc, j'ai l'impression que cette mode, c'était quand même bien implantée depuis 5-6 ans minimum, ouais. Où tous les ans, on avait le droit, personne ne croit en nous, patati patata, depuis les Eagles notamment, qui eux avaient raison. Eux avaient raison, mais du coup tout le monde le faisait derrière.
Les Patriots l'ont fait aussi.
Voilà,
hein.
Les Patriots le faisaient, Brady le faisait, tout le monde le faisait. Ils croyaient pas en nous. Et enfin avoir un mec qui assume et qui dit mais non, il y a pas d'histoire de petit poussé, on est là, on est bon, on veut gagner. Ah oh, merci.
Et c'est un flop du coup.
Non, c'est un top. Du coup, j'ai mis un deuxième top.
C'est pour ça que cette chronique part à volo de toute façon.
Non, je suis optimiste aujourd'hui. Deuxième top. Bon, encore une fois, c'était donc l'avant-dernier, hein, top flop. Donc le top top pour moi cette semaine. Bon, ça part dans tous les sens. Et c'est comme ça que se termine l'épisode 480 du podcast J'en Actu. Merci beaucoup, messieurs. Cette émission vous était proposée par notre partenaire JD Sport pour tout ce qui est sportswear, vêtements, sneakers, accessoires des plus grandes marques, mais aussi maillots NFL. C'est chez JD Sport que ça se passe. On remercie tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. On remercie Lille Molicou, Julien Brossillon, Armadoc, Jérémy, Brunus GB et Swof 99. Pour nous suivre, Twitter à TD Actu, Facebook à TD Actu, Instagram à TDActu Actu en entier, tdactu.com pour le site, les réseaux sociaux personnels, Raphaël underscore TDA pour Raphaël sur Twitter, à Tielo Radio ça pour Greg, à Talin Mattei pour moi-même. Un petit peu de cross-promotion TDA Média, je vous rappelle que le premier épisode d'Occupation est disponible, vous l'avez sur le site, et le deuxième épisode arrive ce mercredi. N'hésitez pas à aller y jeter une oreille, ça me fera très plaisir, je vous en remercie d'avance. Toute l'actu de la NFL, j'ai dit, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup Greg.
Toujours un plaisir.
Ça a été, Greg, ce burger?
Ça va, manger un peu vite, hein, mais bon, de toute façon, la digestion, c'est pas mon atout majeur.
Bonne émission culinaire, du coup. Micro-ondes revient. On parlait de cross-promotion TDA Media. Ouais. Y a
je pense qu'ils font des trucs un peu plus élaborés que le burger que j'ai mangé tout à l'heure.
Et d'ailleurs, je mets pause au générique. Raphaël, tu sais, c'est quand le premier épisode de la saison Top Chef?
Non, on a toujours pas la date officielle. Ça, à mon avis, ça va être autour de mars. Il y a eu la première bande-annonce sur M6, mais sans date, donc ça va être autour de mars.
Bon, voilà, restez branchés, le TDI Universe s'étend avec le retour de micro-ondes. Saison avec de l'intrigue, puisque Glenn Vielle remplace Paul... non, pas Paul Perret. Comment il s'appelle, celui qui est
parti ? Michel Sarron.
Michel Sarron. Bon, voilà, il va nous... Je suis récent, c'est grâce à vous que je me suis mis à Top Chef l'an dernier. Bon, voilà, merci à tous. Je remets le générique. Et on se retrouve jeudi. Ce sera Greg et Victor pour la preview. À bientôt. Ciao, ciao.
Analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tagliato risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocklash, Global Beckham, Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.